De retour en Marc Menant, en compagnie de Mario Varvogliste et Eric Pigani, journaliste à psychologie.
Et oui, et tous les deux, ils sont là pour essayer de nous faire comprendre comment on peut mener de l'espionnage assis dans son fauteuil sans prendre le risque d'être marqué par ses adversaires. Il y a deux secondes, on en était encore au test, déjà en eux-mêmes bien troublant. Maintenant, Mario Varvoglis, revenons à un fait précis qui permettait aux services secrets américains de véritablement prendre une information chez les soviétiques et information déterminante.
Donc, je vais donner deux exemples.
Allez-y. L'abondance de biens ne nuit pas. Alors, c'est bon.
L'un, en septembre 79, donc le National Security Council, qui est très hautement classé, je ne sais pas comment traduire, le Conseil de sécurité nationale.
Si vous
ne
savez pas traduire, ce ne sera pas moi qui vous aiderai.
A demandé, donc, le SRI, une réponse par rapport à un sous-marin qui soupçonnait un nouveau sous-marin russe qui était sous construction, et il soupçonnait que c'était quelque chose d'assez différent de ce qui était là avant, et il voulait voir s'ils peuvent avoir certaines informations de la part de cette voyante psychique, donc ces gens. Donc en fait, ce qu'il était répondu par les voyants, c'est que je vois un sous-marin énorme avec au moins 18 à 20 lanceurs de missiles là-dessus, et un plafond, quelque chose qui est assez différent, qui n'était pas dans la forme de sous-marin qu'on connaissait.
C'est-à-dire le sous-marin qui ressemble à un cigare, c'était plus ça, c'était un sous-marin
une sorte de plafond avec une surface plate assez large devant, et il a ajouté que ça va être lancé, ce sous-marin va être prêt d'être lancé, partir dans la mer, dans à peu près une centaine de journées, de jours de là.
Et à tel endroit, il a précisé le lieu où le lancement a lieu?
Là, je ne suis pas sûr s'il a précisé le lieu. En tout cas, les informations, c'était par rapport au temps de lancement. Et en fait, il y a eu deux sous-marins qui se sont lancés, l'un avec 24 lanceurs de missiles et l'autre avec 20 lanceurs de missiles. Et exactement cette forme avec
une sorte de plateforme et non plus la forme en ogive.
Non, mais n'est pas la chose. Et c'était la première fois qu'il s'était vu, c'était en 120 jours. Exactement, donc à 20 jours près de ce qu'il avait décrit. Maintenant, ça c'est, comment dire, on parle de gens qui n'ont pas des connaissances forcément militaires, sous-marins, etc. On parle de gens qui on les sélectionne spécifiquement parce qu'ils arrivent à deviner quelques symboles cachés dans un enveloppe et pas pour les connaissances. Donc, de sortir ça, et de le donner telle précision, est déjà assez impressionnant.
Bah, d'autant plus qu'il y a le nombre de tirs missiles, voilà. Et puis il y a cette forme qui
cette
est révolutionnaire.
Forme et le temps dans lequel ça va être lancé. Donc, 10 ans après, donc en janvier 89, le Pentagone a demandé à notre voyante par rapport, moi je l'appelle voyante, mais eux ils n'aiment pas cette appellation.
On va pas se
mais
discuter
par rapport
dessus.
À la Libye, il y a eu apparemment une provocation américaine, une critique par rapport au développement de certains armements chimiques, et de la possibilité, il y avait une question s'il y a effectivement une usine ou un site de construction à Rabta. Donc, les voyantes répondent que il y aura un bateau qui s'appelle, il dit Patua ou Potua, qui va arriver en Tripoli et qui va transporter
des armes chimiques,
des éléments chimiques pour construire les armes qui vient d'un port de Libye de l'Orient. Et effectivement, ce qui est arrivé, c'est un bateau qui ne s'appelle pas Patua ou Potua, mais Batato, qui est
donc relativement proche,
qui est arrivé à Tripoli, et déchargé un nombre difficile à quantifier, mais un nombre important un cargo, comment dire,
de cargaison.
Il y avait une cargaison assez importante
de matériel chimique
qu'ils ont pris justement de cet port de la Libye de l'Orient.
Alors, ce qui est étonnant dans tout ça, c'est qu'effectivement, on puisse quand même avoir des éléments aussi précis et qui, là, sont des indications essentielles dans le cadre de ces relations internationales et qui peuvent déboucher sur un état de guerre. Mais ce qu'il faut savoir, Eric Pigani, c'est qu'en général, il ne s'arrête pas à l'information d'un seul voyant, mais qu'en réalité, ils demandent à plusieurs voyants de s'intéresser à un dossier et ils font la synthèse, ne gardent que les corrélations, c'est ça?
Oui, c'était ce qu'on appelait les tirs croisés,
ouais.
Pour vérifier. Non, mais c'est ce qu'il faut rappeler, donc, dans cette opération, dans l'ensemble de cette opération, qu'il y a eu plusieurs noms de code, hein. Il y a eu Drill Flame, Scan 8, avant d'être, ça s'appelle maintenant Stargate, non pas comme le film, il faut séparer Stargate. Il y a eu donc deux lieux importants en Amérique. D'abord le SRI, donc avec le laboratoire de Puthoff et Targ, donc qui travaillaient pour les services secrets, et y compris les services secrets des différentes armées. Mais il y a eu aussi un autre laboratoire, entre guillemets, une autre section qui là était spécifique à l'armée, qui a été justement créée par le général Thompson, qui a été basée à Fort Meade, et qui là n'était constituée que de militaires. C'est-à-dire que après son expérience extraordinaire, Thompson a dit on va créer une section de voyants, même si je n'utilise pas le terme voyant, interne à l'armée. Donc il y a eu deux points de focalisation différents. Un, disons, privé, grand public, qui utilisait et recrutait des médiums, que ce soit des peintres ou des médiums ou
des médiums
civils.
C'était avéré,
voilà,
qui avait une activité déjà en la matière.
Des civils et une section spécifique à l'armée avec uniquement des gens de l'armée.
Donc là, il fallait déceler leur capacité. Donc on a fait des tests. Hein,
là, ils ont
fait tout à l'heure Mario Varvoglis avec le Gantfeld.
Aussi des tests dans l'armée. Et il faut savoir, toute cette histoire est extraordinairement compliquée parce qu'il y a eu des rebondissements, il y a eu des fermetures, des réouvertures, des gens qui ont fait de la désinformation. Et donc, d'ailleurs, en recrutant, pour donner une petite indication, les tests pour l'armée, ceux qui réussissaient le mieux étaient les cartographes, étaient les lecteurs de cartes, ceux qui étaient spécialisés dans l'armée pour faire des décodages de photos de reconnaissance aérienne, par exemple. Vous savez, on donne un satellite passe ou un avion passe, passe, prend une photo d'un site, et vous avez des gens qui sont spécialisés pour lire,
pour essayer d'interpréter
les photos. Vous avez des gens qui sont bons techniciens et des gens qui sont extrêmement doués, qui voient sur une photo ce que les autres ne voient pas forcément. Vous savez, comme en radiologie, c'est pareil, vous avez des médecins, ils voient une radio, ils voient tout de suite quelque chose que d'autres mettraient 3 heures à découvrir.
C'est-à-dire que la perception du voyant, gardons le terme, on ne va pas chipoter là-dessus, la perception du voyant, c'est une sorte d'image, mais qui n'est pas extrêmement bien définie, et donc là, la capacité à prendre paramètre par paramètre les éléments constitue un avantage, puisque à la fin on donne un sens à ce qui n'en a pas, c'est ça. Et donc celui qui professionnellement est déjà habitué à ce type de traitement, ça le rend plus performant.
Voilà, il était beaucoup plus performant, et il y a eu de très 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 nombreuses expériences, non pas des expériences mais des opérations militaires qui ont été faites à partir de Fort Meade. Alors il faut savoir que toute cette section de voyants de l'armée a été dissoute à la fin des années 80, enfin au milieu des années 80, parce que donc Thompson a été remplacé par la suite par un autre général, enfin c'était le commandant Stapelbind, bon, qui a fait dévier ses expériences, enfin de clairvoyance et de vision à distance sur des expériences de torsion de cuillère, sur des expériences de voyance, de futur, bon.
Restons dans l'idée de la corrélation, c'est-à-dire plusieurs voyants qui travaillent sur un point précis. Que retient-on? Comment arrive-t-on à orchestrer cette corrélation afin de dire, ben voilà, il semblerait, en faisant la synthèse, que ce soit ça? D'abord, combien de voyants en général sont utilisés? 3, 4, 5? Est-ce qu'il y a une...
Il n'y avait pas de règle générale. Si un voyant de l'armée... Enfin, il y avait des opérations tellement secrètes qu'il y avait les opérations de Fort Meade et les opérations de SRI, enfin, ou les demandes du SRI. À Fort Meade, évidemment, les militaires savaient ce qu'ils faisaient. Les médiums du SRI ne savaient absolument pas de quoi il s'agissait. Mais en règle générale, il y avait au moins deux vérifications pour une cible. D'ailleurs, on trouvait une cible militaire, disons, on allait chercher en URSS à l'époque, dans tel endroit, ce qui pouvait bien se cacher comme type d'arme nucléaire, s'il y en avait ou pas, si ça confirmait des photos de reconnaissance aérienne ou pas. quelles étaient les installations, parce que évidemment les photos de reconnaissance aérienne c'est du dessus, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc les voyants étaient utiles là pour savoir ce qu'il y avait en dessous des photos. Et il y avait généralement une ou deux confirmations, deux maximum, qui étaient faites, mais par des voyants du SRI, donc des civils.
D'accord. Mais quand vous dites les voyants ne savaient pas, le propre d'un voyant c'est de savoir, sinon il ne serait pas utilisé en tant que tel. Donc même si au départ, bien évidemment, de toute façon on est dans l'espionnage, donc on ne connaît pas le point, mais même ceux qui proposent la cible, il n'en reste pas moins que le voyant n'est pas un imbécile total, et que très rapidement les informations qu'il égrène, il se rend bien compte qu'ils correspondent à un objectif militaire, et ils comprennent cet objectif militaire. D'abord parce que quand on dit il y a tant de tirs missiles, etc., etc., bon, là, oui, on est dans le concret.
Mais ce qu'il ne connaît pas, c'est il n'a pas toujours la vérification de ce qu'il a donné. Même les meilleures voyantes peuvent générer plein propositions, plein phrases, mais il ne sait pas en avance lesquelles de ces phrases sont justes.
Mais ça, à la limite, c'est vrai dans tout espionnage. Il faut après qu'il y ait la vérification sur le terrain. Ça peut être 5 ans après, 3 mois après, ou 2 jours plus tard.
Mais à cause de la nature sensitive, quelque part, de ce dont on parlait là, ce qu'on traitait, il y avait une sorte de, comment dire, une règle, une stratégie militaire de ne pas donner les informations, mais simplement de dire au SRI, par exemple, de dire oui, il y avait une bonne partie de choses qui étaient bien. Ou encore pire, de simplement de revenir et dire on est suffisamment encouragé par les résultats pour poursuivre cette coopération avec vous.
D'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une sorte de fatras dans ce qui est formulé par un voyant, hein, pendant 3 quarts d'heure il va vous tenir un certain nombre de propos, il n'y en a qu'une parcelle qui correspondra à une exactitude. Alors comment savoir que c'est l'exactitude? Que c'est telle parcelle qui correspond à la vérité?
Comment le voyant le sait?
Oui, c'est-à-dire que dans tout ce que formule le voisin, le voyant, comme il y a une part d'erreur, comment savoir quelle est celle des vérités qu'il a réussi
en fait, la seule façon de savoir,
c'est le recoupement,
enfin c'est essentiellement de tester, les comparer avec les données, d'autres données, d'autres sources de données. Dans n'importe quelle opération d'espionnage, en fait, il y a un recoupement des informations, parce que les satellites donnent, c'est une source d'information, les espions qui sont physiquement autres, et ainsi de suite, et on est dans la même situation.
Eh bien, nous continuerons le débat après le flash de 11h. On aura un troisième invité au téléphone.